On se lève du bon pied et on parle jardinage durant l'heure qui arrive. Soyez les bienvenus, bonjour Noélie.
Bonjour Mylène.
Ce matin, nous sommes en compagnie de Cathiou Racine. Bonjour Cathiou.
Bonjour.
Cathiou, vous êtes guide de randonnée nature et jardinière à Mervelier. On peut suivre vos activités sur les réseaux sociaux sous le nom de Rendez-vous avec soi-même. Merci d'être avec nous ce matin.
Les Jardinières, c'est votre émission jardinage du samedi avec au programme des conseils, des astuces et des réponses à vos questions. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h.
7h, 8h, les Jardinières.
Cathiou, le mois de juin a un démarrage plutôt humide et frais, hein, on ne peut pas le nier. Mais apparemment, on annonce le retour d'un temps plus clément ces prochains jours. Le soleil devrait enfin faire son retour. Du coup, qu'est-ce qu'on prévoit de faire durant ce week-end de Pentecôte ?
Alors effectivement, avec l'humidité qu'il y a eu, on a pu remarquer qu'il y a beaucoup de mauvaises herbes qui ont poussé dans nos jardins. Donc on va pouvoir désherber, vraiment profiter qu'il fasse encore pas trop chaud pour faire ce boulot qui est déjà pas très agréable à faire. Donc bien désherber entre les lignes et puis faire attention justement que ces mauvaises herbes ne prennent pas le dessus sur certaines culture qui aurait peut-être eu du mal de pousser un petit peu. Souvent, les mauvaises herbes, elles poussent beaucoup plus vite et puis elles étouffent le reste de ce qu'on voudrait voir venir. Donc, enlever ces mauvaises herbes. Et puis, on pourra aussi profiter pour regarder un petit peu, enlever s'il y a des feuilles qui sont pourries. Ça a été tellement humide. Il y a peut-être certaines feuilles de plantations qu'on a fait qui ont déjà pourri sur le sol. Donc, on va profiter vraiment pour nettoyer notre jardin, pour éviter qu'après, il y ait des maladies qui se développent ou d'autres choses. Et puis, vu qu'on a pu constater qu'il y a énormément de limaces et puis beaucoup d'escargots, ben, si vous avez des canards coureurs indiens, ben, c'est le moment de les lâcher dans votre potager.
Merci Cathiou, vous êtes notre invitée jusqu'à 8h en seconde partie d'émission. Je rappelle, vous répondrez aux questions de nos auditeurs. Et puis pour le faire, trois possibilités, soit par téléphone en nous appelant 0 900 70 20 20, et vous pourrez parler directement avec nous. Vous pouvez également remplir le formulaire sur notre site et joindre une photo à votre question. Ou la troisième manière de s'y prendre, c'est par SMS. Il faut taper jardin, laisser un espace suivi de votre question et de votre nom, et vous nous envoyez le tout au 939.
Les Jardinières.
Ce matin, Cathiou, on parle maladies et ravageurs qui arrivent avec les températures chaudes, une vraie plaie pour nos cultures. On va commencer par s'attaquer aux ravageurs. Cathiou, qui sont ces ravageurs qu'on peut croiser dans nos jardins et qui posent le plus de problèmes ?
Alors les ravageurs, il faut savoir qu'il y en a tout plein, puis ils sont tout partout. Donc voilà, le sujet est vaste, mais on va essayer de parler un petit peu des plus importants, enfin ceux qui sont le plus courants chez nous, puis surtout ceux qu'on voit le plus facilement. Donc bien sûr, il y a le puceron, ça tout le monde connaît le puceron qui s'agglutine volontiers sur les tiges. Il y a les chenilles, ben celles-là, on les repère aussi assez facilement, souvent elles sont bien belles, ça nous embête un peu de les enlever. Ensuite, il y a les acariens, il y a divers acariens dont l'araignée rouge, celle-là on la voit aussi assez régulièrement, on voit ces petites toiles. Il y a la mouche mineuse et le doryphore, il y a les cochenilles, il y a le ver du hanneton, ce fameux gros ver blanc dégoûtant qu'on trouve à peu près tout partout. Il y a le ver de la framboise, il y a le ver de la cerise, et puis il faut aussi pas oublier qu'il y a les rongeurs qui font des gros dégâts dans nos jardins, potagers ou jardins d'ornement. Mais le rongeur est aussi un très très grand ravageur qu'on néglige souvent.
Cathiou, comment savoir si ces ravageurs sont présents dans nos plantes ?
Alors là, c'est un petit peu de l'observation. Enfin non, c'est pas un petit peu de l'observation, c'est de l'observation à fond. Il y a les feuilles qui jaunissent en général. Tout d'un coup, on verra peut-être une plante qui fane. On verra une plante qui végète, qui ne pousse plus. On verra une plante qui disparaît. Tout d'un coup, il y a plus, cette plante n'est plus là. On pourra aussi observer des toiles d'araignées. On pourra observer des traces de limaces, de la bave. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qui nous donnent des indices comme quoi nous ne sommes plus seuls dans notre potager.
Et Cathiou, est-ce que vous avez des astuces ou des méthodes préventives pour limiter leur venue et la disparition des plantes ?
Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait pouvoir constituer un endroit qui leur est favorable, mais pas au milieu de notre potager. Ça veut dire qu'on va, peut-être, comme les limaces, elles aiment beaucoup ben justement les jeunes feuilles, ce qui est très tendre. Enfin voilà, tout le monde sait ce qu'une limace mange. Hein. Ça serait utile de pouvoir faire un mini potager dans le potager où là, on met rien du tout. Ça veut dire qu'on laisse vraiment tous ces petits ravageurs aller se servir sur ces plantes-là. Et puis, à côté, on fait son potager, celui dont on va se servir et se régaler. Et puis, ça limitera beaucoup l'avenue de ces ravageurs. Mais on peut aussi travailler avec des associations de plantes. Par exemple, l'ail et l'oignon, c'est une plante que quasiment tous les ravageurs détestent. En tous les cas, la limace, les campagnols et puis les pucerons, c'est quelque chose qu'ils n'aiment pas du tout. Alors, pourquoi ne pas faire un jardin potager et planter l'ail et l'oignon autour de notre jardin potager, au lieu de faire une ligne ou une petite plate-bande. Ils n'aiment pas du tout tout ce qui est très épicé, en fait. Tout ce qui est menthe, sauge, lavande, citronnelle, enfin toutes ces choses-là, c'est vraiment les plantes qui combattent énormément de ravageurs. Donc si on peut faire des barrières autour de notre jardin ou simplement une jolie délimitation avec ces plantes-là, eh ben, on a déjà un bon atout en main.
Et qu'est-ce qu'on peut faire, Cathy, si justement on découvre malgré tout une plante malade ?
Alors, on pourra faire un traitement, par exemple, on pourra faire un traitement avec du savon noir contre les pucerons et les cochenilles. On y existe aussi la terre de diatomée qui est très efficace, par exemple, contre les acariens. La terre de diatomée, c'est une espèce de poudre minérale. Quand on touche des cailloux, quand on était petit, on avait les mains toutes rêches. Et bien, cette terre de diatomée, quand on la touche, c'est exactement la même sensation. Et puis, en fait, quand elle est pulvérisée sur un ravageur, ça le bloque mécaniquement. Ça veut dire que ses pattes vont plus fonctionner. Enfin, tout va s'arrêter de fonctionner. Donc, ça va tuer le ravageur. Donc, ça, c'est super parce que c'est vraiment naturel. On peut faire du purin d'ortie, par exemple, contre les pucerons et les campagnols. On peut mettre, par exemple, des coquilles de noix autour de ces plantes, car les limaces et les escargots sont absolument incapables de passer là-dessus parce que c'est très... C'est très motocross pour eux, hein, ils ont vraiment du mal d'aller là-dessus. On peut mettre les entonnoirs autour des salades, puis on peut aussi faire des traitements chimiques, je dis bien entre parenthèses, qu'on trouve dans les commerces, parce que maintenant le chimique n'est plus celui qui était il y a 30 ans.
Et puis Cathy, on sait que certains insectes sont nos alliés au jardin, hein. On les appelle les auxiliaires. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement comment les faire venir ceux-là ?
Alors souvent, les faire venir, c'est soit le fait de planter des plantes qui vont les attirer en premier avant nos légumes, ou alors on peut aussi maintenant vraiment se fournir dans les jardineries. On peut acheter des auxiliaires qu'on reçoit par la poste et puis qu'on doit préparer. Voilà, il y a tout un mode d'emploi. Préparer ces auxiliaires afin de les mettre, soit de les intégrer dans les cultures, soit de les pulvériser sur les cultures, soit de les arroser, parce qu'il y a aussi des auxiliaires qui vont dans le sol. Et puis, par exemple, le puceron, l'auxiliaire qui est vraiment idéal pour lui, c'est la coccinelle. En général, elles viennent assez, s'il y a vraiment beaucoup de pucerons, on trouvera des coccinelles. Donc voilà, elles viennent aussi assez naturellement si on laisse un petit peu notre jardin se développer de manière naturelle puis pas vouloir tout contrôler. Et puis, il y a le phytomyte, c'est un acarien qui mangera l'araignée rouge qui est aussi un acarien. Mais c'est simplement un acarien qui est beaucoup, beaucoup plus vorace que lui. Et puis, par exemple, la chenille, ben, son prédateur, ça sera les oiseaux, les grenouilles. Il y a aussi la guêpe parasitoïdes. C'est une petite guêpe qui ira pondre sous la peau de la chenille. Et puis, ben voilà, pour que tout ce petit monde vienne dans nos jardins, il faut qu'ils aient des endroits pour se cacher, il faut qu'ils aient des endroits pour se développer, pour hiberner. Donc, il y a vraiment des choses à respecter dans notre jardin. Laisser ces jardins venir un peu naturellement pour que les auxiliaires puissent s'y installer.
7h, 8h, les jardinières.
Après avoir parlé des ravageurs qui se multiplient avec la chaleur, intéressons-nous maintenant aux maladies qui peuvent s'installer dans nos jardins. Champignons, taches suspectes, feutrage blanc, comment les reconnaître, les prévenir et les soigner efficacement pour nous aider? Nous sommes en compagnie de Cathy Racine, jardinière et guide de randonnée nature.
Alors Cathy, quelles sont les principales maladies qui apparaissent ou se développent avec la chaleur et l'humidité?
Les maladies qui se développent avec la chaleur et l'humidité, ben c'est bien évidemment les champignons, hein, ça sera toujours un champignon. Donc il y en a plusieurs qu'on connaît ou qu'on reconnaît. Il y aura le mildiou par exemple, celui-là tout le monde en parle, tout le monde ne sait pas toujours forcément ce que c'est, mais voilà, tout le monde en parle. Il y a l'oïdium aussi, celui-là qui est vraiment repérable facilement. Il y a la moniliose, il y a la rouille, il y a la pourriture grise qu'on appelle aussi botrytis, enfin voilà, il y en a plein. Après on a aussi beaucoup des noms qui sont un petit peu à consonance latine, avec du latin plutôt. Et puis, on ne va pas les citer parce que ça ne parlera à personne, mais disons que celles-là, c'est les principales.
Et Katiou, comment est-ce qu'on reconnaît les premiers signes d'une maladie sur nos plantes ?
Alors, par exemple, si on parle de l'oïdium, on va voir sur les feuilles un espèce de feutrage blanc-gris. Et puis, si on va gentiment frotter avec le doigt dessus, en fait, ce feutre, il s'enlève. Donc, c'est là qu'on voit bien sûr que c'est un petit peu comme le moisi qu'on trouverait sur un aliment. Si on passe son doigt dessus, ça s'en va. Donc, on aura, par exemple, ce feutrage blanc-gris. On aura aussi certaines taches sur des rosiers, par exemple, qui seront brunes, avec une auréole jaune au milieu. Donc là, ça sera aussi un champignon. Si on parle de la rouille, on verra qu'il y a des taches qui se forment sur les feuilles de couleur orange-brune, aussi sur les tiges, parfois. Et puis, par exemple, la moniliose sur les fruitiers, qui est aussi un champignon. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des fois, à la fin de la saison, on voit sur les arbres ces pruneaux qui sont presque momifiés, comme ça, puis ils ont plein de taches blanches, et puis les feuilles se sont aussi momifiées, tout s'est momifié en fait, et bien ça c'est la moniliose. Donc voilà, c'est vraiment les maladies les plus courantes qu'on peut reconnaître, mais c'est toujours un champignon.
Il n'y a que des champignons, pas d'autres
Il n'y a que des champignons, mais ils ne se mangent pas, ceux-là.
Les jardinières.
Bienvenue si vous nous rejoignez maintenant pour la suite des jardinières. Ce matin, nous sommes en compagnie de Katiou Racine, guide de randonnée nature et jardinière à Mervelier. Découvrez ses activités sur les réseaux sociaux sous le nom de Rendez-vous avec soi-même. Ce matin, on parle ravageurs et maladies qui arrivent avec le retour de la belle saison. Comment les prévenir et comment protéger nos plantes. Et Katiou prendra aussi le temps de répondre à vos questions jardinage.
Et vous avez trois possibilités pour poser vos questions, soit par téléphone et Katiou répondra en direct. Vous composez le 0901 70 20 20 et vous pouvez également nous envoyer une photo, cette fois-ci en passant par les formulaires que vous trouvez sur notre site. Une photo accompagnée de votre question. Et puis la troisième manière de s'y prendre, c'est par SMS. Il faut taper « jardin » au début du message, laisser un espace, puis poser votre question, laisser votre nom et nous envoyer le tout au 939.
Alors Katiou, avant la pause, vous nous avez expliqué comment reconnaître les premiers signes d'une maladie sur nos plantes. Différentes taches apparaissent sur les feuilles, des taches brunes, des taches oranges, c'est en particulier des champignons. Alors est-ce que vous avez des conseils préventifs pour éviter ou limiter ces maladies dans notre jardin ?
Alors, on peut faire un petit peu de prévention, effectivement. La chose qui est assez importante, c'est de commencer très tôt dans la saison. Ça veut dire qu'on va commencer de travailler en prévention au débourrage. Le débourrage, je pense que tout le monde sait ce que c'est, mais je vais quand même juste expliquer rapidement. C'est lorsque les bourgeons sont prêts à éclore. Ça veut dire qu'on voit soit les fleurs ou soit les feuilles. En l'occurrence, là, ça sera plutôt sur les feuilles, vu qu'on parle des maladies, on va voir le vert du bourgeon et puis il sera encore pas ouvert. Donc ça, c'est vraiment la phase du débourrage. Et puis pendant cette phase du débourrage, on va pouvoir faire ce qu'on appelle communément chez nous un traitement d'hiver. Ça veut dire qu'on va pulvériser sur la plante un mélange d'huile minérale et de cuivre qu'on trouve dans les grandes surfaces ou dans les jardineries. Et puis en fait, ce mélange va vraiment prévenir des ravageurs et des maladies. Donc on va faire les deux, l'huile d'hiver, ça sera plutôt contre les ravageurs et puis le cuivre contre les maladies. L'huile, elle va recouvrir la plante d'une fine pellicule qui empêchera les ravageurs qui sont en train d'hiberner sur la plante de s'oxygéner, donc qui vont les faire mourir et puis ça limitera vraiment la propagation de ces ravageurs. Et puis on fera aussi attention, par exemple, de ne pas trop serrer les plantes. Si on plante des arbres fruitiers, attention, prenez vraiment des distances, parce qu'une fois qu'ils seront adultes, qu'ils auront 5, 6, 7 ans, ils seront trop serrés, donc on verra un peu plus loin que ça provoque des gros problèmes. Il faut faire aussi attention avec l'arrosage. Il faut aussi bien pailler, par exemple, parce que c'est vraiment toujours cette chaleur et cette humidité qui nous provoquent ces maladies. Donc, si on paille bien son potager, si par exemple on met un paillage entre les pommes de terre, eh ben ça évite que quand il fait chaud, que la vapeur d'eau ne sorte de la terre et puis crée cette humidité sous les plantes, à l'intérieur des plantes. Donc, ça va vraiment aussi très très bien limiter la venue de ces bestioles. Il faut vraiment ça, c'est vraiment de la prévention. C'est avant que ça arrive, il faut vraiment préparer le terrain pour que ça n'arrive pas ou ça arrive moins.
Et si, malgré tout, on a appliqué vos conseils préventifs, mais on découvre une plante malade, qu'est-ce qu'on peut faire ?
Alors, si par exemple, vous voyez que, je ne sais pas, votre plante de pommes de terre commence d'avoir quelques feuilles qui changent, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va les enlever manuellement. Sur toutes les plantes, on peut faire ça. C'est la meilleure chose à faire. À mon avis, c'est vraiment de prendre tout au début, de rester bien dans l'observation, de prendre le mal tout au début, ou les ravageurs aussi, mais là, on va parler des maladies en l'occurrence. On va enlever ces feuilles à la main. Et puis, on va surtout ne pas les mettre dans le compost, parce que vu que c'est un champignon, le champignon, on sait bien que quand il a fini, quand il a maturité, ce sont des spores après qui s'envolent. Donc, le champignon va s'envoler et aller se déposer ailleurs. Donc, ce n'est pas l'idée non plus. Donc on va prendre ces feuilles, on va les mettre dans un petit sachet plastique bien fermé et puis on va mettre ça à la poubelle. On peut aussi, par exemple, isoler la plante. Si vraiment on a une plante qui est en pot et qui commence d'être malade, qui est parmi les autres, on va bien sûr essayer de la nettoyer et puis on va l'isoler du groupe. Si vraiment c'est trop atteint, ben ma foi, il faudra peut-être sacrifier une ou deux plantes pour éviter la propagation. C'est souvent un gros problème parce qu'on se dit « ouais, mais ça va encore ». Il faut savoir que ça va très, 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 très vite, ces maladies. Donc, isoler la plante ou la sacrifier. Et puis, ce qui est important aussi, c'est de bien aérer. Par exemple, les tomates, on les a souvent sous les abris. Quand on les arrose, ne pas oublier d'aérer, justement pour toujours ventiler, pour aérer tout ça. Et puis, il faut faire aussi attention, quand on a des plantes malades, ne pas directement arroser sur les feuilles pour un petit peu les protéger. Et puis, surtout, désinfecter vos outils si vous coupez avec un sécateur. N'allez pas couper vos plantes malades et puis après, allez tailler un petit peu le mirabellier qui est juste à côté parce que sinon, vous allez juste lui amener la maladie à lui aussi.
Et ça serait dommage. Katiou, vous en avez touché quelques mots là durant l'émission. Des remèdes de grand-mère, des remèdes naturels pour lutter contre ces maladies. Peut-être nous rappeler les plus importants ou les plus faciles à faire. Moi, je pense toujours au purin d'ortie.
C'est exactement ce que j'allais vous dire. Le purin d'ortie, c'est un petit peu le remède miracle. Et puis en plus, il a double utilisation. Ça veut dire qu'on va pouvoir l'utiliser comme traitement et puis on va aussi pouvoir l'utiliser comme engrais. Alors, je vous donne la recette, comme ça tout le monde pourra aller à la cueillette des orties ce week-end. Donc, on va prendre 1 kg de feuilles fraîches et puis on va mettre ce kilo de feuilles fraîches dans 10 litres d'eau, de l'eau de pluie de préférence. Et puis, on va mettre ça dans un de ces beaux tonneaux bleus dont notre enfance, ça sentait autre chose que le purin d'ortie quand on mettait le nez dessus. On va laisser ça 2 à 3 semaines macérer, puis pendant ces 2 à 3 semaines, on va remuer tous les 2 à 3 jours. Et puis on va voir qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a une fermentation qui se fait, il y a une espèce de mousse qui va se faire dessus, c'est tout à fait normal. On ne ferme pas le couvercle hermétiquement, bien sûr, parce que ça va fermenter, ça va macérer, donc il va y avoir quelques gaz. Et puis, au bout de ces 3 semaines, je dirais, ça dépend un peu du temps, on peut repérer, on voit quand il n'y a plus de bulles, qui remonte, et quand il y a très peu de mousse, c'est que la fermentation est terminée, la macération. Et on va filtrer ça, et on va pouvoir mettre ça dans un bidon qu'on va garder peut-être à la cave ou dans un endroit frais. Et puis, en fait, ça se dilue à 10%. Et puis, on pourra vraiment l'utiliser dilué à 10%. 10% 10 litres de purée d'ortie pour 100 litres d'eau. On va pouvoir l'utiliser soit pour traiter les plantes, de préférence en arrosage. Comme ça, on pourra directement laisser descendre ce purin d'ortie dans le sol et puis ça fera directement un petit peu d'engrais. On pourra faire une seule manœuvre pour faire les deux.
Et pour terminer, Katiou, vous l'avez mentionné quelques fois durant l'émission, est-ce que notre meilleur allié contre les maladies et les ravageurs, ça reste après tout l'observation ?
Oui, clairement, mais je pense que tout ce qui nous entoure dans le monde naturel, notre meilleur allié, c'est l'observation. Quand on voit que si on est un petit peu attentif, puis là, c'est vraiment la régularité qui fait le succès. Il n'y a pas besoin d'être jardinier confirmé pour ça. Si on passe tous les jours un petit coup dans son jardin, regarder, prendre 3 minutes, c'est pas beaucoup. Et on va, on passe, on regarde, on se dit « Ah, mais tiens, celle-là, c'est bizarre, elle, ça fait 3 semaines qu'elle ne pousse pas. Ah, mais tiens, celle-ci, oh là là, elle va bien, super. » Et puis on peut se noter, on peut se dire « Ah, mais tiens, cette plante-là, j'ai fait ça cette année, elle pousse super bien. » Puis on va voir qu'il y a tout à coup des tas jaunes qui se... Par exemple, moi, au début de l'année, j'avais mis les pommes de terre, et puis dès qu'elles sont sorties, tout de suite, elles ont commencé d'avoir des feuilles jaunes. Mais je veux dire, si je me dis « Oui, ben, elles sont plantées maintenant pendant 3 semaines, moi, j'ai plus besoin d'aller voir. » Eh ben, j'aurais pas vu cette maladie, et puis là, j'ai pu enlever rapidement à la main, puis maintenant, il n'y a plus une seule tache sur mes feuilles. Donc, je veux dire, c'est vraiment l'observation et puis la régularité qui fait le succès d'un beau potager, je pense.
7h, 8h, les jardinières.
7h47 chez les jardinières, il est temps de répondre aux questions que nous avons reçues. Catiou, la première et les suivantes seront toutes pour vous, de toute façon. Une question de Olivier qui nous écrit « Bonjour, j'ai plusieurs bacs à fleurs avec des plantes aromatiques, dont du persil plat et frisé que je ne mélange pas avec la ciboulette, car apparemment pas compatible, mais ils jaunissent après quelques semaines en terre et je ne sais plus quoi faire. Trop d'eau, pas assez. Il nous dit qu'il arrose une fois par semaine, histoire de garder la terre humide. Et il a aussi mis de l'engrais pour plantes aromatiques. Alors, Catiou, est-ce que vous pouvez aider Olivier et son persil ?
Alors, le persil, il peut jaunir pour deux raisons, mais c'est là que c'est un petit peu embêtant. C'est qu'il peut jaunir soit parce qu'il a beaucoup trop d'eau ou soit parce qu'il n'a pas assez d'eau. Donc maintenant, là, c'est difficile de répondre à la question en n'étant pas devant ce fameux bac. Alors voilà, moi, je pense que c'est plutôt un excès d'eau. On peut quand même avoir un petit repère pour ça. S'il n'y a pas assez d'eau, le tour va jaunir, mais ce qui reste de vert au milieu va flétrir parce que ça aura soif. Donc ça, c'est peut-être un petit indice. Quand c'est un excès d'eau, le milieu qui est vert reste quand même un peu plus, avec le bord un peu plus dressé, et puis le reste jaunit aussi. Donc là, il y a déjà un repère. Moi, je pense qu'il y a trop d'eau. C'est souvent le cas, plutôt trop que pas assez. Et puis maintenant, il faudrait savoir si ces bacs sont, par exemple, peut-être de temps en temps à la pluie, quand il y a vraiment des fortes pluies. Alors peut-être que Olivier il arrose, et puis il y a encore un petit peu d'eau de pluie qui vient par-dessus, puis il s'en aperçoit pas forcément. Et puis le truc, je pense, c'est que peut-être il n'a pas drainé ses bacs. On parle toujours de ce drainage, je reviens toujours là-dessus, mais c'est très 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 important de mettre un drainage au fond du pot afin que l'eau ne stagne pas. Parce que souvent, on a des bacs, on touche le dessus parce qu'il a fait chaud, c'est sec, c'est même croûteux. Et puis en fait, si vous creusez 5-6 cm de votre bac, en fait, c'est trempé. Donc bien souvent, on se dit « Oh là là, ça a soif !» Alors ça n'a pas soif du tout, parce que pour qu'une plante ait soif, il faut déjà aller un moment. Hein. Et puis on arrose par là-dessus, ça redescend tout en bas, et puis ça va remettre les pieds dans l'eau à cette plante, et puis bien souvent, ben, c'est ça qui provoque ce jaunissement. Et puis le persil est quand même très fragile, il faut bien l'avouer.
Merci Catiou. On a encore une question pour vous. Elle nous vient par formulaire de la part de Saskia de Cernier. Elle nous dit qu'elle a acheté du terreau pour plantes d'intérieur en grande surface et il était infesté de cyarides. Il lui a fallu des semaines de traitement et beaucoup de produits pour s'en défaire. Elle demande où peut-on se procurer du terreau qui n'est pas infesté de cyarides, d'araignées rouges ou autres parasites. Et puis si le terreau est déjà contaminé, que peut-on faire pour neutraliser les parasites ou les ravageurs ?
Alors les cyarides, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des petits moucherons qu'on trouve assez souvent dans le terreau, dans nos plantes d'appartement à la fin de l'hiver ou choses comme ça. Donc c'est des petits moucherons qui aiment beaucoup aussi l'humidité, les petites cachettes dans la terre et tout ça. Et puis très sincèrement, je pense que ça arrive assez rarement quand même qu'on ait des sacs de terreau qu'on achète dans le commerce qui soient infestés de cyarides. Mais alors visiblement ça peut arriver. Alors comment s'en débarrasser ? Là, ça serait plutôt par stérilisation. Donc, il faudrait vraiment pouvoir stériliser cette terre. Mais bon, ça, c'est pas faisable, je pense, en l'occurrence pour ce sac de terreau. On peut aussi mettre des clous de girofle dans le terreau. Ça, c'est quelque chose que ces petites mouches n'aiment pas du tout. Donc, si on a vraiment le sac de terreau qui est encore pas dans le pot, on pourrait y mélanger des clous de girofle pour faire partir ces petites mouches. Et puis, où en acheter du pas contaminé? Alors là, je ne sais pas. Je ne suis pas Madame
Terreau.
Je ne vois pas dans la boule de cristal. Je n'en ai aucune idée. Mais ayant travaillé de nombreuses années dans un grand commerce qui vendait des sacs de terreau, numéro. Je n'ai jamais eu une réclamation de ce type. Donc, je pense que ce n'est pas de chance et puis qu'il ne faut pas pour autant bannir ce magasin. Puis, il faut retenter l'expérience.
7h, 8h, les jardinières.
Katiou, ce matin, vous nous avez donné des conseils et des astuces pour prévenir les maladies et les ravageurs qui s'attaquent à nos plantes quand les beaux jours reviennent. L'émission sera disponible en podcast en cours de matinée sur notre site. Et Katiou, avant de vous laisser filer, dites-nous, qu'est-ce qu'on peut faire au jardin ces prochains jours ?
Ben, je crois que la météo va s'améliorer, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors là, on va vraiment pouvoir chausser ses bottes, parce que je pense qu'on aura quand même besoin des bottes encore un ou deux jours, et puis aller regarder un petit peu ce qui s'est passé dans notre jardin pendant ces quelques jours de pluie, peut-être remplacer les plantes qui ont vraiment souffert de ces grandes pluies, et puis ben, justement, comme j'ai dit au début, là, il va falloir désherber, faire de la place, penser bien à aérer, parce que là, s'il vient un coup de chalumeau du soleil sur nos cultures, avec l'humidité du sol qu'il y a, ça va vraiment créer une ambiance très tropicale. Et puis les champignons dont on a parlé pendant cette émission, ben, ils sont vraiment très contents de ce climat. Donc il faudra ventiler, aérer, enlever les plantes malades, vraiment faire place nette pour qu'on puisse cette fois vraiment démarrer notre saison jardinage.
Merci Cathy, on rappelle que vous êtes guide de randonnée nature et jardinière à Mervelier. On peut suivre vos activités sur les réseaux sociaux sous le nom de Rendez-vous avec soi-même. Passez un bon week-end et à bientôt chez les jardinières.
Bon week-end à vous.
Merci Katiou. Les jardinières seront de retour samedi prochain dès 7h. Nous serons en compagnie d'Olivier Ribaud, pépiniériste à Porrentruy. Et comme d'habitude, hein, vous avez toute la semaine pour nous envoyer vos questions en remplissant le formulaire sur notre site sous l'onglet émission questions aux jardinières. Et puis on se retrouve. Ah, j'ai juste une petite question qui est arrivée. On va vite vous la poser Katiou. J'ai un reste de purin d'ortie de l'année passée. Est-ce que je peux encore l'utiliser cette année ?
Alors, mettez le nez dessus et puis vous allez tout de suite avoir la réponse. S'il a une odeur comme ça, très végétale, eh bien oui. Et puis, s'il a tourné, il sentira presque vraiment le vrai purin. Là, il ne faudra pas l'utiliser. Mais la conservation aussi, s'il a été conservé à l'abri de la lumière puis un peu au frais, je pense que c'est bon.
Merci beaucoup, Katiou. C'était une question de Diane Miel de Kourou. Voilà, tout est dit. Bon week-end, Noélie.
Et bon week-end, Mylène.
Bon week-end à toutes et à tous. À samedi prochain.
7h, 8h. Les jardinières.